Émile Zola, Aventure du Grand Sidoine et du Petit Médéric. Chapitre 1. Les héros. À 100 pas, le Grand Sidoine avait quelque peu l'aspect d'un peuplier, si ce n'est qu'il était plus haut de taille et de tournure plus épaisse. À 50, on distinguait parfaitement son sourire satisfait, ses gros yeux bleus à fleur de tête, ses énormes poings qu'il balançait d'une façon timide et embarrassée. À 25, on le déclarait sans hésiter garçon de cœur, fort comme une armée, mais bête comme tout. Le petit Médéric, pour sa part, avait, quant à la taille, de fortes ressemblances avec une laitue. Je dis une laitue en bas âge. Mais, à remarquer ses lèvres fines et mobiles, son front pur et élevé, à voir la grâce de son salut, l'aisance de son allure, on lui accordait aisément plus d'esprit qu'aux doctes cervelles de 40 grands hommes. Ses yeux ronds, pareils à ceux d'une mésange, dardaient des regards pénétrants comme des vrilles d'acier. Ce qui, certes, l'aurait fait juger méchant enfant, si de longs cils blonds n'avaient voilé d'une ombre douce la malice et la hardiesse de ses yeux-là. Il portait des cheveux bouclés, il riait d'un bon rire engageant, de sorte qu'on ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Bien qu'ils eussent grand-peine à converser librement, le Grand Sidoine et le petit Médéric n'en étaient pas moins les meilleurs amis du monde. Ils avaient 16 ans tous deux, étant nés le même jour, à la même minute, et se connaissaient depuis lors, car leur mère, qui se trouvait voisine, se plaisait à les coucher ensemble dans un berceau d'osier, au jour où le Grand Sidoine se contentait encore d'une couche de 3 pieds de long. Sans doute, c'est chose rare que 2 enfants, nourris d'une même bouillie, et des croissances si singulièrement différentes. Ce fait embarrassait d'autant plus les savants du voisinage que Médéric, contrairement aux usages reçus, avait à coup sûr rapetissé de plusieurs pouces. Les 500 ou 600 doctes brochures écrites sur ce phénomène par des hommes spéciaux prouvaient de reste que le bon Dieu seul savait le secret de ces croissances bizarres. Comme il sait, d'ailleurs, ceux des bottes de 7 lieues, de la belle au bois dormant et de ses 1000 autres vérités, si belles et si simples qu'il faut toute la pureté de l'enfance pour les comprendre. Les mêmes savants, qui faisaient métier d'expliquer ce qui ne saurait l'être, se posaient encore un grave problème. Comment peut-il se faire, se demandaient-ils entre eux, sans jamais se répondre, que cette grande bête de Sidoine aime d'un amour aussi tendre ce petit polisson de Médéric. Et comment ce petit polisson trouve-t-il tant de caresses pour cette grande bête? Question obscure, bien faite pour inquiéter des esprits chercheurs. La fraternité du brin d'herbe et du chêne. Je ne me soucierai pas autant de ces savants. Si un d'eux, le moins accrédité dans la paroisse, m'avait dit, certains jours, en hochant la tête. « Eh, bonnes gens, ne voyez-vous donc pas ce dont il s'agit? Rien n'est plus simple. Il s'est fait un échange entre les marmots, quand ils étaient au berceau, alors qu'ils avaient la peau tendre et le crâne de peu d'épaisseur. Sidoine a pris le corps de Médéric, et Médéric l'esprit de Sidoine. De sorte que l'un a cru en jambes et en bras, tandis que l'autre croissait en intelligence. De là leur amitié. Ils sont un même être en 2 êtres différents. Là, c'est, si je ne me trompe, la définition des amis parfaits. » Lorsque le bonhomme eut ainsi parlé, ses collègues rirent aux éclats et le traitèrent de fou. Un philosophe daigna lui démontrer comme quoi les âmes ne se transvasent point de la sorte, ainsi qu'on fait d'un liquide. Un naturaliste lui criait en même temps, dans l'autre oreille, qu'on n'avait pas d'exemple en zoologie d'un frère cédant ses épaules à son frère, comme il lui céderait sa part de gâteau. Le bonhomme hochait toujours la tête, répétant « J'ai donné mon explication, donnez la vôtre. Nous verrons ensuite laquelle des deux sera la plus raisonnable. » J'ai longtemps médité ces paroles, et je les ai trouvées pleines de sagesse, jusqu'à meilleure explication. Si tant est que j'ai besoin d'une explication pour continuer ce conte, je m'en tiendrai à celle donnée par le vieux savant. Je sais qu'elle blessera les idées nettes et géométriques de bien des personnes, mais comme je suis décidé à accueillir avec reconnaissance les nouvelles solutions que mes lecteurs trouveront sans aucun doute, je crois agir justement en une matière aussi délicate. Ce qui, Dieu merci, n'était pas sujet à controverse, car tous les esprits droits conviennent assez souvent d'un fait, c'est que Sidoine et Médéric se trouvaient au mieux de leur amitié. Ils découvraient chaque jour tant d'avantages à être ce qu'ils étaient, que pour rien au monde ils n'auraient voulu changer de corps ni d'esprit. Sidoine, lorsque Médéric lui indiquait un nid de pie, tout au haut d'un chêne, se déclarait l'enfant le plus fin de la contrée. Médéric, lorsque Sidoine se baissait pour s'emparer du nid, croyait de bonne foi avoir la taille d'un géant. Mal t'en eût pris si tu avais traité Sidoine de sot, espérant qu'il ne saurait te répondre. Médéric t'aurait prouvé, en trois phrases, que tu tournais à l'idiotisme. Et Médéric, donc, si tu l'avais raillé sur ses petits points, tout juste assez fort pour écraser une mouche, c'eût été une bien autre chanson. Je ne sais trop comment tu aurais échappé aux longs bras de Sidoine. Ils étaient forts et intelligents tous deux, puisqu'ils ne se quittaient point, et ils n'avaient jamais songé qu'il leur manquât quelque chose, si ce n'est les jours où le hasard les séparait. Pour ne rien cacher, je dois dire qu'ils vivaient un peu en vagabond, ayant perdu leurs parents de bonne heure, se sentant d'ailleurs de force à manger en tout lieu et en tout temps. D'autre part, ils n'étaient pas garçons à se loger tranquillement dans une cabane. Je te laisse à penser quel hangar il eût fallu pour Sidoine. Quant à Médéric, il se serait contenté d'une armoire. Si bien que, pour la commodité de tous deux, ils logeaient au champ, dormant en été sur le gazon, se moquant du froid l'hiver sous une chaude couverture de feuilles et de mousse sèche. Ils formaient ainsi un ménage assez singulier. Médéric avait charge de penser. Il s'en acquittait à merveille, connaissait au premier coup d'œil les terrains où se trouvaient les pommes de terre les plus savoureuses et savait, à une minute près, le temps qu'elles devaient rester sous la cendre pour être cuites à point. Sidoine agissait. Il déterrait les pommes de terre, ce qui n'était pas, je t'assure, une petite besogne, car si son compagnon n'en mangeait qu'une ou deux, il lui en fallait bien, quant à lui, trois ou quatre charretées. Puis il allumait le feu, les couvrait de braise, se brûlait les doigts à les retirer. Ses menus soins domestiques n'exigeaient pas grande ruse ni grande force de poignet. Mais il faisait bon voir les deux compagnons dans les exigences plus graves de la vie, comme lorsqu'il fallait se défendre contre les loups pendant les nuits d'hiver, ou encore se vêtir décemment, sans bourse déliée, ce qui présentait des difficultés énormes. Sidoine avait fort à faire pour tenir les loups à distance. Il lançait à droite et à gauche des coups de pied à renverser une montagne. Le plus souvent, il ne renversait rien du tout, par la raison qu'il était très maladroit de sa personne. Il sortait ordinairement de ses luttes les vêtements en lambeaux. Alors le rôle de Médéric commençait. De faire des reprises, il n'y fallait pas songer. Le malin garçon préférait se procurer de beaux habits neufs, puisque, d'une façon comme d'une autre, il devait se mettre en frais d'imagination. À chaque blouse déchirée, Ayant l'esprit fertile en expédients, il inventait une étoffe nouvelle. Ce n'était pas tant la qualité que la quantité qui l'inquiétait. Figure-toi un tailleur qui aurait à habiller les tours Notre-Dame. Une fois, dans un besoin pressant, il adressa une requête aux meuniers, sollicitant de leur bienveillance les vieilles voiles de tous les moulins à vent de la contrée. Comme il demandait avec une grâce sans pareille, il obtint bientôt assez de toile pour confectionner un superbe sac qui fit le plus grand honneur à Sidoine. Une autre fois, il eut une idée plus ingénieuse encore. Comme une révolution venait d'éclater dans le pays et que le peuple, pour se prouver sa puissance, brisait les écussons, déchirait les bannières du dernier règne, il se fit donner, sans peine, tous les vieux drapeaux qui avaient servi dans les fêtes publiques. Je te laisse à penser si la blouse, faite de ces lambeaux de soie, fut splendide à voir. Mais c'étaient là des habits de cour, et Médéric cherchait une étoffe qui résistât plus longtemps aux griffes et aux dents des bêtes fauves. Un soir de bataille, les loups ayant achevé de dévorer les drapeaux, il lui vint une subite inspiration en considérant les morts restés sur le sol. Il dit à Sidoine de les écorcher proprement, fit ensuite sécher les peaux au soleil. 8 jours après, son grand frère se promenait, la tête haute, vêtu galamment des dépouilles de leurs ennemis. Sidoine, un peu coquet, ainsi que tous les gros hommes, se montrait très sensible aux beaux ajustements neufs. Aussi se mit-il à faire chaque semaine un furieux carnage de loups, les assommant d'une façon plus douce par crainte de gâter les fourrures. Médéric n'eut plus dès lors à s'inquiéter de la garde-robe. Je ne t'ai point dit comment il arrivait à se vêtir lui-même, mais tu as sans doute compris qu'il y arrivait sans tant de ruse. Le moindre bout de ruban lui suffisait. Il était fort mignon, de taille bien prise, quoique petite. Les dames se le disputaient pour l'attifer de velours et de dentelle. Aussi le rencontrait-on, toujours mis à la dernière mode. Je ne saurais dire que les fermiers fussent très enchantés du voisinage des deux amis. Mais ils avaient tant de respect pour les poings de Sidoine, tant d'amitié pour les jolis sourires de Médéric, qu'ils les laissaient vivre dans leur champ comme chez eux. Les enfants, d'ailleurs, ne mésusaient pas de l'hospitalité. Ils ne prélevaient quelques légumes que lorsqu'ils étaient las de gibier et de poisson. Avec de plus méchants caractères, ils auraient ruiné le pays en 3 jours. Une simple promenade dans les blés eût suffi. Aussi leur tenait-on compte du mal qu'ils ne faisaient pas. On leur avait même de la reconnaissance pour les loups qu'ils détruisaient par centaines, et pour le grand nombre d'étrangers curieux qu'ils attiraient dans les villes d'alentour. J'hésite à entrer en matière avant de t'avoir conté plus au long les affaires de mes héros. Les vois-tu bien, là, devant toi? Sidoine, haut comme une tour, vêtu de fourrure grise. Médéric, paré de rubans et de paillettes, brillant dans l'herbe à ses pieds comme un scarabée d'or. Te les figures-tu se promenant dans la campagne, le long des ruisseaux, soupant et dormant dans les clairières, vivant en liberté sous le ciel de Dieu? Te dis-tu combien Sidoine était bête avec ses gros poings, et que d'ingénieux expédients, que de fines réparties se logeaient dans la petite tête de Médéric? Te pénètres-tu de cette idée que leur union faisait leur force, que, nés l'un loin de l'autre, ils auraient été de pauvres diables fort incomplets, obligés de vivre selon les us et coutumes de tout le monde? As-tu suffisamment compris que si j'avais de mauvaises intentions, je pourrais cacher là-dessous quelque sens philosophique? Es-tu enfin décidé à me remercier de mon géant et de mon nain, que j'ai élevé avec un soin particulier de façon à en faire le couple le plus merveilleux du monde. Oui ? Alors, je commence, sans plus tarder, l'étonnant récit de leurs aventures. Chapitre 2. Ils se mettent en campagne. Un matin d'avril, l'air était encore vif, de légers brouillards s'élevaient de la terre humide. Sidoine et Médéric se chauffaient à un grand feu de broussailles. Ils venaient de déjeuner et attendaient que le brasier se fût éteint pour faire un bout de promenade. Sidoine, assis sur une grosse pierre, regardait les charbons d'un air pensif. Mais il fallait se défier de cet air-là, car il était connu de tous que le brave enfant ne pensait jamais à rien. Il souriait béatement en appuyant les poings sur ses genoux. Médéric, couché en face de lui, contemplait avec amour les poings de son compagnon. Bien qu'il les eût vus grandir, il trouvait à les regarder un éternel sujet de joie et d'étonnement. « Oh, la belle paire de poings » songeait-il. « Les maîtres poings que voilà. Comme les doigts en sont épais et bien plantés. Je ne voudrais pas, pour tout l'or du monde, en recevoir la moindre chiquenaude. Il y aurait de quoi assommer un bœuf. Ce cher Sidoine ne semble pas se douter qu'il porte notre fortune au bout des bras. » Sidoine, que le feu réjouissait, allongeait en effet les mains d'une façon indolente. Il dodelinait de la tête, abîmé dans un oubli complet des choses de ce monde. Médéric se rapprocha du feu qui s'éteignait. « N'est-ce pas dommage ? » reprit-il à voix basse, « d'user de si belles armes contre les méchantes carcasses de quelques loups galeux. Elles méritent vraiment un usage plus noble, comme d'écraser des bataillons entiers et de renverser des murs de citadelles. Nous qui sommes nés sûrement pour de grands destins, nous voilà dans notre 16e année, sans avoir encore fait le moindre exploit. Je suis las de la vie que nous menons au fond de cette vallée perdue. Je crois qu'il est grandement temps d'aller conquérir le royaume que Dieu nous garde quelque part. Car plus je regarde les poings de Sidoine, et plus j'en suis convaincu. Ce sont là des poings de roi. » Sidoine était loin de songer aux grandes destinées rêvées par Médéric. Il venait de s'assoupir, ayant peu dormi la nuit précédente. On sentait, à la régularité de son souffle, qu'il ne prenait pas même la peine d'avoir des songes. « Hé, mon mignon !» lui cria Médéric. Il leva la tête. Il regarda son compagnon d'un air inquiet, agrandissant les yeux, dressant les oreilles. « Écoute, » reprit celui-ci, « et tâche de comprendre, s'il est possible. Je songe à notre avenir. Je trouve que nous le négligeons beaucoup. La vie, mon mignon, ne consiste pas à manger de belles pommes de terre dorées et à se vêtir de splendides fourrures. Il faut, en outre, se faire un nom dans le monde. » Se créer une position. Nous ne sommes pas gens du commun, pouvant nous contenter de l'état et du titre de vagabond. Certes, je ne méprise pas ce métier, qui est celui des lézards, bêtes à coup sûr plus heureuses que bien des hommes. Mais nous serons toujours à temps de le reprendre. Il s'agit donc de sortir au plus tôt de ce pays, trop petit pour nous, et de chercher une contrée plus vaste, où nous puissions nous montrer à notre avantage. Sûrement, nous ferons vite fortune si tu me secondes selon tes moyens. J'entends en distribuant des taloches d'après mes avis et conseils. Me comprends-tu ?
Je crois que oui, répondit Sidoine d'un ton modeste.
Nous allons voyager et nous battre tout le long de la route. Ce sera charmant.
Seulement, continua Médéric. Il nous faut un but pour nous ôter le loisir de baguenauder en chemin. Vois-tu, mon mignon, nous aimons trop le soleil. Nous serions bien capables de passer notre jeunesse à nous chauffer au pied des haies si nous ne connaissions, au moins par ouï-dire, le pays où nous désirons nous rendre. J'ai donc cherché une contrée qui fût digne de nous posséder. Je t'avoue que d'abord, je n'en trouvais aucune. Heureusement, je me suis rappelé une conversation que j'ai eue il y a quelques jours avec un Bouvreuil de ma connaissance. Il m'a dit venir en droite ligne d'un grand royaume, nommé le Royaume des Heureux, célèbre par la fertilité du sol et l'excellent caractère des habitants. Il est gouverné en ce moment par une jeune reine, l'aimable Primevère, qui, dans la bonté de son cœur, ne se contente pas de laisser vivre en paix ses sujets, mais veut encore faire participer les animaux de son empire aux rares félicités de son règne. Je te dirai, une de ces nuits, les étranges histoires que m'a contées à ce sujet mon ami le Bouvreuil. Peut-être, car tu me parais singulièrement curieux aujourd'hui. Désires-tu connaître comment je compte agir dans le royaume des heureux ? Dès à présent, à ne juger les choses que de loin, il me semble assez convenable de me faire aimer de l'aimable Primevère et de l'épouser pour vivre grassement ensuite, sans souci des autres empires du monde. Nous verrons à te créer une position qui convienne à tes goûts, en te permettant de t'entretenir la main. Mon mignon, je jure de te tailler tôt ou tard une noble besogne, telle que le monde dans 1000 ans parlera encore de tes poings. Sidoine, qui avait compris, aurait sauté au cou de son frère si cela eût été possible. Lui, dont l'imagination était fort paresseuse d'ordinaire, il voyait, avec les yeux de l'âme, des champs de bataille vastes comme des océans. Riante perspective qui faisait courir des frissons de joie le long de ses bras. Il se leva, serra la ceinture de sa blouse et se campa devant Médéric. Celui-ci songeait, jetant autour de lui des regards tristes. Les habitants de ce pays ont toujours été bons pour nous, dit-il enfin. Ils nous ont souffert dans leurs champs. Sans eux, nous n'aurions pas si fière mine. Nous devons, avant de les quitter, leur laisser une preuve de notre reconnaissance. Que pourrions-nous bien faire qui leur fût agréable ? Sidoine crut naïvement que cette question s'adressait à lui. Il eut une idée. « Frère, répondit-il, que penses-tu d'un grand feu de joie ? Nous pourrions brûler la ville prochaine, à l'extrême satisfaction des habitants, car pour peu qu'ils aient mon goût, rien ne les distraira autant que de belles flammes rouges par une nuit bien noire. » Médéric haussa les épaules. « Mon mignon, dit-il, je te conseille de ne jamais te mêler de ce qui me regarde. Laisse-moi réfléchir une seconde. Si j'ai besoin de tes bras, alors tu travailleras à ton tour. » Voici, reprit-il après un silence. Il y a là, au sud, une montagne qui, m'a-t-on dit, gêne beaucoup nos bienfaiteurs. La vallée manque d'eau. Leurs terres sont d'une telle sécheresse qu'elles produisent le pire vin du monde, ce qui est un continuel chagrin pour les buveurs du pays. Là, de piquette, ils ont convoqué dernièrement toutes leurs académies. Une aussi docte assemblée allait certainement inventer la pluie, sans plus de peine que si le bon Dieu s'en fût mêlé. Les savants se sont donc mis en campagne. Ils ont fait des études fort remarquables sur la nature et la pente des terrains, concluant que rien ne serait plus facile que de dériver et d'amener dans la plaine les eaux du fleuve voisin, si cette diablesse de montagne ne se trouvait justement sur le passage. Observe, mon mignon, combien les hommes, nos frères, sont de pauvres sires. Ils étaient là, une centaine, à mesurer, à niveler, à dresser de superbes plans. Ils disaient, sans se tromper, ce qu'était la montagne, marbre, craie ou pierre à plâtre. Ils l'auraient pesé, s'ils l'avaient voulu, à quelques kilogrammes près. Et pas un, même le plus gros, n'a songé à la porter quelque part où elle ne gêna plus. Prends la montagne, Sidoine, mon mignon. Je vais chercher dans quel lieu nous pourrions bien la poser sans malencontre. » Sidoine ouvrit les bras. Il en entoura délicatement les rochers. Puis il fit un léger effort, se renversant en arrière, et se releva, serrant le fardeau contre sa poitrine. Il le soutint sur son genou, attendant que Médéric se décidât. Ce dernier hésitait. « Je la ferais bien jeter à la mer, » murmurait-il, « mais un tel caillou occasionnerait pour sûr un nouveau déluge. Je ne puis non plus la faire mettre brutalement à terre, au risque d'écorner une ville ou deux. Les cultivateurs pousseraient de beaux cris si j'encombrais un champ de navets ou de carottes. Remarque, Sidoine, mon mignon, l'embarras où je suis. Les hommes se sont partagés le sol d'une façon ridicule. On ne peut déranger une pauvre montagne sans écraser les choux d'un voisin. » « Tu dis vrai, mon frère, » répondit Sidoine. « Seulement, je te prie d'avoir une idée au plus vite. Ce n'est pas que ce caillou soit lourd, mais il est si gros qu'il m'embarrasse un peu. » « Viens donc, » reprit Médéric. « Nous allons le poser entre ces deux coteaux que tu vois au nord de la plaine. Il y a là une gorge qui souffle un froid du diable en ce pays. Notre caillou, qui la bouchera parfaitement, abritera la vallée des vents de mars et de septembre. » Lorsqu'ils furent arrivés, et comme Sidoine s'apprêtait à jeter la montagne du haut de ses bras, ainsi que le bûcheron jette son fagot au retour de la forêt. « Mon Dieu, mon mignon !» cria Médéric. « Laisse-la glisser doucement, si tu ne veux ébranler la terre à plus de 50 lieues à la ronde. Bien, ne te hâte, ni ne te soucie des écorchures. » Je crois qu'elle branle. Il serait bon de la caler avec quelques roches, pour qu'elle ne s'avise de rouler lorsque nous ne serons plus ici. Voilà qui est fait. Maintenant, les braves gens boiront de bons vins. Ils auront de l'eau pour arroser leurs vignes et du soleil pour endorer les grappes. Écoute, Sidoine, je suis bien aise de te le faire observer. Nous sommes plus habiles qu'une douzaine d'académies. Nous pourrons, dans nos voyages, changer à notre gré la température et la fertilité des pays. Il ne s'agit que d'arranger un peu les terrains, d'établir au nord un paravent de montagne, après avoir ménagé une pente pour les eaux. La terre, je l'ai souvent remarquée, est mal bâtie. Je doute que les hommes aient jamais assez d'esprit pour en faire une demeure digne de nations civilisées. Nous verrons à y travailler un peu, dans nos moments perdus. Aujourd'hui, voilà notre dette de reconnaissance payée. Mon mignon, secoue ta blouse, qui est toute blanche de poussière. Et partons. » Sidoine, il faut le dire, n'entendit que le dernier mot de ce discours. Il n'était pas philanthrope, ayant l'esprit trop simple pour cela. Il se souciait peu d'un vin dont il ne devait jamais boire. L'idée de voyager le ravissait. À peine son frère eut-il parlé de départ, que la joie lui fit faire 2 ou 3 enjambées, ce qui l'éloigna de plusieurs douzaines de kilomètres. Heureusement, Médéric avait saisi un pan de la blouse. « Ohé, mon mignon » cria-t-il. « Ne pourrais-tu avoir des mouvements moins brusques? Arrête, pour l'amour de Dieu! Crois-tu que mes petites jambes soient capables de semblables sauts? Si tu comptes marcher d'un tel pas, je te laisse aller en avant et te rejoindrai peut-être dans quelques centaines d'années. Arrête, assieds-toi. » Sidoine s'assit. Médéric saisit à 2 mains le bas de la culotte de fourrure. Comme il était d'une merveilleuse agilité, il grimpa légèrement sur le genou de son compagnon en s'aidant des touffes de poils et des accrocs qu'il rencontra en chemin. Puis, il s'avança le long de la cuisse, qui lui sembla une belle grande route, large, droite, sans montée aucune. Arrivé au bout, il posa le pied dans la première boutonnière de la blouse, s'accrocha plus haut à la seconde, monta ainsi jusqu'à l'épaule. Là, il fit ses préparatifs de voyage, prit ses aises, se coucha commodément dans l'oreille gauche de Sidoine. Il avait choisi ce logis pour deux raisons. D'abord, il se trouvait à l'abri de la pluie et du vent, l'oreille en question étant une maîtresse oreille. Ensuite, il pouvait, en toute sûreté d'être entendu, communiquer à son compagnon une foule de remarques intéressantes. Il se pencha sur le bord d'un trou noir qu'il découvrit dans le fond de sa nouvelle demeure et, d'une voix perçante, cria dans cet abîme. « Maintenant, mon mignon, tu peux courir si bon te semble. Ne t'amuse pas dans les sentiers. Fais en sorte que nous arrivions au plus vite. M'entends-tu ?»«
Oui, frère, » répondit Sidoine. « Je te prie même de ne pas parler si haut, car ton souffle me chatouille d'une façon désagréable. » Et ils partirent.
Chapitre 3. Léger aperçu sur les momies. Ce n'est pas Sidoine qui aurait jamais sollicité un ministre des travaux publics pour l'établissement de ponts et de routes. Il marchait d'ordinaire à travers champs, s'inquiétant peu des fossés, encore moins des coteaux. Il professait un dédain profond pour les coudes des sentiers frayés. Le brave enfant faisait de la géométrie sans le savoir, car il avait trouvé, à lui tout seul, que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Il traversa ainsi une douzaine de royaumes, ayant soin de ne pas poser le pied au beau milieu de quelques villes, ce qu'il sentait devoir déplaire aux habitants. Il enjamba deux ou trois mers sans trop se mouiller. Quant aux fleuves, il ne daigna même pas se fâcher contre eux, les prenant pour ces minces filets d'eau dont la terre est sillonnée après une pluie d'orage. Ce qui l'amusa prodigieusement, ce furent les voyageurs qu'il rencontra. Il les voyait suer le long des montées, aller au nord pour revenir au midi, lire les poteaux au bord des routes, se soucier du vent, de la pluie, des ornières, des inondations, de l'allure de leurs chevaux. Il avait vaguement conscience du ridicule de ces pauvres gens, qui s'en vont de gaieté de cœur risquer une culbute dans quelque précipice, lorsqu'ils pourraient demeurer si tranquillement assis à leur foyer. « Que diable ! » aurait dit Médéric, « quand on est ainsi bâti, on reste chez soi. » Mais pour l'instant, Médéric ne regardait pas sur la terre. Au bout d'un quart d'heure de marche, il désira cependant reconnaître les lieux où il se trouvait. Il mit le nez dehors, se pencha sur la plaine. Il se tourna aux quatre points du monde et ne vit que du sable, qu'un immense désert emplissant l'horizon. Le site lui déplut. « Seigneur Jésus, se dit-il, que les gens de ce pays doivent avoir soif. J'aperçois les ruines d'un grand nombre de villes, et je jurerais que les habitants sont morts, faute d'un verre de vin. Sûrement, ce n'est pas là le royaume des heureux. Mon ami le Bouvreuil me l'a donné comme fertile en vignobles et en fruits de toutes espèces. Il s'y trouve même, a-t-il ajouté, des sources d'une eau limpide, excellente pour rincer les bouteilles. Cet écervelé de Sidoine nous a certainement égarés. Et se tournant vers le fond de l'oreille, « Hé, mon mignon » cria-t-il, « où vas-tu ? »
« Pardieu !» répondit Sidoine sans s'arrêter,
« je vais devant moi. »
« Vous êtes un sot, mon mignon !» reprit Médéric.
« Vous avez l'air de ne pas vous douter que la terre est ronde, et qu'en allant toujours devant vous, vous n'arriveriez nulle part. Nous voilà belles et bien perdues. »
« Oh !» dit Sidoine en courant de plus belle. « Peu m'importe, je suis partout chez moi. »«
Mais arrête donc, malheureux !» cria de nouveau Médéric. « Je sus à te regarder marcher ainsi. J'aurais dû veiller au chemin. Sans doute, tu as enjambé la demeure de l'aimable Primevère, sans plus de façon qu'une hutte de charbonnier. Palais et chaumière sont de même niveau pour tes longues jambes. Maintenant, il nous faut courir le monde au hasard. Je regarderai passer les empires du haut de ton épaule, jusqu'au jour où nous découvrirons le royaume des heureux. En attendant, rien ne presse. Nous ne sommes pas attendus. Je crois utile de nous asseoir un instant, pour méditer plus à l'aise sur le singulier pays que nous traversons en ce moment. Mon mignon, assieds-toi sur cette montagne qui est là, à tes pieds.
Ça, une montagne ? Répondit Sidoine en s'asseyant. C'est un pavé, où le diable m'emporte.
À vrai dire, ce pavé était une des grandes pyramides. Nos compagnons, qui venaient de traverser le désert d'Afrique, se trouvaient pour lors en Égypte. Sidoine, n'ayant pas en histoire des connaissances bien précises, regarda le Nil comme un ruisseau boueux. Quant aux sphinx et aux obélisques, ils lui parurent des graviers d'une forme singulière et fort laide. Médéric, qui savait tout sans avoir rien appris, fut fâché du peu d'attention que son frère accordait à cette boue et à ses pierres, visitées et admirées de plus de 500 lieues à la ronde. « Hé, Sidoine, dit-il, tâche de prendre, s'il t'est possible, un air d'admiration et de respectueux étonnement. Il est du dernier mauvais goût de rester calme en face d'un pareil spectacle. Je tremble que quelqu'un ne l'aperçoive. Dodelinant ainsi de la tête devant les ruines de la vieille Égypte, nous serions perdus dans l'estime des gens de bien. Remarque qu'il ne s'agit pas ici de comprendre, ce que personne n'a envie de faire, mais de paraître profondément pénétré du haut intérêt que présentent ces cailloux. Tu as tout juste assez d'esprit pour t'en tirer avec honneur. Là, tu vois le Nil, cette eau jaunâtre qui croupit dans la vase. C'est, m'a-t-on dit, un fleuve très vieux. Il est à croire cependant qu'il n'est pas plus âgé que la Seine et la Loire. Les peuples de l'Antiquité se sont contentés d'en connaître les embouchures. Nous, gens curieux, aimant à nous mêler de ce qui ne nous regarde pas, nous en cherchons les sources depuis quelques centaines d'années, sans avoir pu découvrir encore le plus mince réservoir. Les savants se partagent. D'après les uns, il existerait certainement une fontaine quelque part, qu'il s'agirait seulement de bien chercher. Les autres, qui me paraissent avoir des chances de l'emporter, jurent qu'ils ont fouillé tous les coins, et qu'à coup sûr le fleuve n'a point de source. Moi, je n'ai pas d'opinion décidée en cette matière, car il m'arrive rarement d'y songer. D'ailleurs, une solution quelconque ne m'engraisserait pas d'un centimètre. Regarde maintenant ces vilaines bêtes qui nous entourent, brûlées par des millions de soleils. C'est pure malice, assure-t-on, si elles ne parlent pas. Elles connaissent le secret des premiers jours du monde, et l'éternel sourire qu'elles gardent sur les lèvres et simplement par manière de se moquer de notre ignorance. Pour moi, je ne les juge pas si méchantes. Ce sont de bonnes pierres, d'une grande simplesse d'esprit, qui en savent moins long qu'on veut le dire. Écoute toujours, mon mignon. Ne crains pas de trop apprendre. Je ne te dirai rien sur mon fils, dont nous apercevons les ruines à l'horizon. Je ne te dirai rien par l'excellente raison que je ne vivais pas au temps de sa puissance. Je me défie beaucoup des historiens qui en ont parlé. Je pourrais lire, comme un autre, les hiéroglyphes des obélisques et des vieux murs écroulés. Mais, outre que cela ne m'amuserait pas, étant très scrupuleux en matière d'histoire, j'aurais la plus grande crainte de prendre un A pour un B, et de t'induire ainsi en des erreurs qui seraient pour toi d'une déplorable conséquence. Je préfère joindre à ces considérations générales un léger aperçu sur les momies. Rien n'est plus agréable à voir qu'une momie bien conservée. Les Égyptiens s'enterraient sans doute avec tant de coquetterie dans la prévision du rare plaisir que nous aurions un jour à les déterrer. Quant aux pyramides, selon l'opinion commune, elles servaient de tombeaux, si pourtant elles n'étaient pas destinées à un autre usage qui nous échappe. Ainsi, à en juger par celle sur laquelle nous sommes assis, car notre siège, je te prie de le remarquer, est une pyramide de la plus belle venue.
Je les croirais bâtis par un peuple hospitalier pour servir de siège aux voyageurs fatigués.
N'était le peu de commodité qu'elles offrent à un tel emploi.
Je finirai par une morale. Sache, mon mignon, que 30 dynasties dorment sous nos pieds. Les rois sont couchés par milliers dans le sable, emmaillotés de bandelettes, les joues fraîches, ayant encore leurs dents et leurs cheveux. On pourrait, si l'on cherchait bien, en composer une jolie collection qui offrirait un grand intérêt pour les courtisans.
Le malheur est qu'on a oublié leurs noms et qu'on ne saurait les étiqueter d'une façon convenable. Ils sont tous plus morts que leurs cadavres.
Si jamais tu deviens roi, songe à ces pauvres momies royales endormies au désert. Elles ont vaincu les vers 5000 ans et n'ont pu vivre 10 siècles dans la mémoire des hommes.
J'ai dit, rien ne développe l'intelligence comme les voyages.
Je compte parfaire ainsi ton éducation, en te faisant un cours pratique sur les divers sujets qui se présenteront en chemin.
Durant ce long discours, Sidoine, pour complaire à son compagnon, avait pris l'air le plus bête du monde.
Note que c'était précisément là l'air qu'il fallait.
Mais, à la vérité, il s'ennuyait de toute la largeur de ses mâchoires, regardant d'un œil désespéré le Nil, les sphinx, Memphis, les pyramides, s'efforçant même de penser aux momies, sans grand résultat. Il cherchait furtivement à l'horizon s'il ne trouverait pas un sujet qui lui permît d'interrompre l'orateur d'une façon polie. Comme celui-ci se taisait, il aperçut un peu tard deux troupes d'hommes se montrant aux deux bouts opposés de la plaine.
« Frère, dit-il, les morts m'ennuient. Apprends-moi quels sont ces gens qui viennent à nous. »
Chapitre 4 Les points de Sidoine. J'ai oublié de te dire qu'il pouvait être midi lorsque nos voyageurs discouraient de la sorte assis sur une des grandes pyramides. Le Nil roulait lourdement ses eaux dans la plaine, pareil à la coulée d'un métal en fusion. Le ciel était blanc, comme la voûte d'un four énorme chauffé pour quelques cuissons gigantesques. La terre n'avait pas une ombre et dormait sans haleine, écrasée sous un sommeil de plomb. Dans cette immense immobilité du désert, les deux troupes formées en colonne s'avançaient, semblables à des serpents, glissant avec lenteur sur le sable. Elles s'allongeaient toujours. Bientôt ce ne furent plus de simples caravanes, mais deux armées formidables, deux peuples rangés par files démesurées qui allaient d'un bout de l'horizon à l'autre, coupant d'une ligne sombre la blancheur éclatante du sol. Les uns, ceux qui descendaient du nord, portaient des casaques bleues. Les autres, ceux qui montaient du midi, étaient vêtus de blouses vertes. Tous avaient à l'épaule de longues piques à pointes d'acier, de sorte qu'à chaque pas que faisaient les colonnes, un large éclair les sillonnait silencieusement. Ils marchaient les uns contre les autres.
« Mon mignon !» cria Médéric. « Plaçons-nous bien, car si je ne me trompe, nous allons avoir un beau spectacle.
Ces braves gens ne manquent pas d'esprit. Le lieu est on ne peut mieux choisi pour couper commodément la gorge à quelques 100 000 hommes. Ils vont se massacrer à l'aise, et les vaincus auront un beau champ de course lorsqu'il s'agira de décamper au plus vite. Parlez-moi d'une pareille plaine pour se battre à l'extrême satisfaction des spectateurs. » Cependant, les deux armées s'étaient arrêtées en face l'une de l'autre, laissant entre elles une large bande de terrain. Elles poussèrent des clameurs effroyables, elles brandirent leurs armes, se montrèrent le poing, mais n'avancèrent pas d'une toise. Chacune semblait avoir un grand respect pour les piques ennemies. Oh, les lâches coquins !» répétait Médéric qui s'impatientait. « Est-ce qu'ils comptent coucher ici ? Je jurerais qu'ils ont fait plus de 100 lieues pour le seul plaisir de se gourmer. Et maintenant, les voilà qui hésitent à échanger la moindre chiquenaude. Je te demande un peu, mon mignon, s'il est raisonnable à 2 ou 3 millions d'hommes de se donner rendez-vous en Égypte sur le coup de midi pour se regarder face à face en se criant des injures. Vous battrez-vous, coquin ? Mais voilà donc, ils baillent au soleil comme des lézards. Ils semblent ne pas se douter que nous attendons. Oui, double lâche, vous battrez-vous ou ne vous battrez-vous pas ? Les bleus, comme s'ils avaient entendu les exhortations de Médéric, firent 2 pas en avant. Les verts, voyant cette manœuvre, en firent par prudence 2 en arrière. Sidoine fut scandalisé. « Frère, dit-il, j'éprouve une furieuse envie de m'en mêler. La danse ne commencera jamais si je ne la mets pas en branle. N'es-tu pas d'avis qu'il serait bon d'essayer mes poings en cette occasion ?» Pardieu, répondit Médéric, tu aurais eu une idée décente dans ta vie. Retrousse tes manches, fais-moi de la propre besogne. Sidoine retroussa ses manches et se leva. Par lesquelles dois-je commencer ? Demanda-t-il. Les bleus ou les verts ? Médéric songea une seconde. Mon mignon, dit-il, les verts sont à coup sûr les plus poltrons. Doblez-moi d'importance, pour leur apprendre que la peur ne garantit pas des coups. Mais attends, je ne veux rien perdre du spectacle. Je veux, avant tout, me poster commodément. » Se disant, il monta sur l'oreille de son frère et s'y coucha à plat ventre, en ayant soin de ne passer que la tête. Puis il saisit une messe de cheveux, qu'il rencontra sous sa main, afin de ne pas être jeté à bas dans la bagarre. Ayant ainsi pris ses dispositions, il déclara être prêt pour le combat. Aussitôt, Sidoine, sans crier gare, tomba sur les verres à bras raccourcis. Il agitait ses poings en mesure, ainsi que des fléaux, et battait l'armée à coups pressés, comme blé sur air. En même temps, il lançait ses pieds à droite et à gauche, au beau milieu des bataillons, lorsque quelques rangs plus épais lui barraient le passage. Ce fut un beau combat, je te l'assure, digne d'une épopée en 24 champs. Notre héros se promenait sur les pics sans plus s'en soucier que de brins d'herbe. Il allait de ça, de là, ouvrait de toutes parts de larges trouées, écrasant les uns contre terre, lançant les autres à 20 ou 30 mètres de hauteur. Les pauvres gens mouraient, n'ayant seulement pas la consolation de savoir quelle rude main les secouait ainsi. Car au premier abord, quand Sidoine se reposait tranquillement sur la pyramide, rien ne le distinguait nettement des blocs de granit. Puis, lorsqu'il s'était dressé, il n'avait pas laissé à l'ennemi le temps de l'envisager. Observe qu'il fallait au regard 2 bonnes minutes pour monter le long de ce grand corps, avant de rencontrer une figure. Les vers n'avaient donc pas une idée très nette de la cause des formidables bourrades qui les renversaient par centaines. La plupart pensèrent sans doute, en expirant, que la pyramide s'écroulait sur eux, ne pouvant s'imaginer que des poings d'hommes eussent autant de ressemblance avec des pierres de taille. Médéric, émerveillé de ce fait d'armes, se trémoussait d'aise. Il battait des mains, se penchait au risque de tomber, perdait l'équilibre, se raccrochait vite à la mèche de cheveux. Enfin, ne pouvant rester muet en de telles circonstances, il sauta sur l'épaule du héros, où il se maintint en se tenant au lobe de l'oreille. De là, tantôt il regardait dans la plaine, tantôt il se tournait pour crier quelques mots d'encouragement. « Oh là là ! » criait-il. « Quelle tape, mon doux Jésus ! Quel beau bruit de marteau sur l'enclume ! Ohé, mon mignon, frappe à ta gauche, nettoie-moi ce gros de cavalerie qui fait mine de détaler. Hé, vite donc, frappe à ta droite, là, sur ce groupe de guerriers chamarrés d'or et de broderie, et lance pieds et poings ensemble, car je crois qu'il s'agit ici de princes, de ducs et autres crânes d'épaisseur. Pardieu, voilà de rudes taloches. La place est nette, comme si la fouille avait passé. En cadence, mon mignon, en cadence. Procède avec méthode, la besogne en ira plus vite. Bien cela. Il tombe par centaines dans un ordre parfait. J'aime la régularité en toute chose, moi. Le merveilleux spectacle. Dirait-on pas un champ de blé, un jour de moisson, lorsque les gerbes sont couchées au bord des sillons, en longues rangées symétriques? Tape, tape, mon mignon, ne t'amuse pas à écraser les fuyards en un, ramène-les-moi vertement par le fond de leur culotte, et ne lève la main que sur 3 ou 4 douzaines au moins. Oh là là, quelle calotte, quelle bourrade, quel triomphant coup de pied! Et Médéric s'extasiait, se tournait en tous sens, ne trouvant pas d'exclamation assez choisie pour peindre son ravissement. À la vérité, Sidoine n'en frappait ni plus fort ni plus vite. Il avait pris au début un petit train bonhomme, continuant la besogne avec flegme, sans accélérer le mouvement. Il surveillait seulement les bords de l'armée. Lorsqu'il apercevait quelques fuyards, il se contentait de le ramener à son poste d'une chiquenaude pour qu'il eût sa part au régal. Quand viendrait son tour? Au bout d'un quart d'heure d'une pareille tactique, les vers se trouvaient tous couchés proprement dans la plaine, sans qu'un seul restât debout pour aller porter au reste de la nation la nouvelle de la défaite. Circonstance rare et affligeante qui ne s'est pas reproduite depuis dans l'histoire du monde. Médéric n'aimait pas avoir le sang versé. Quand tout fut terminé, « Mon mignon, dit-il à Sidoine, puisque tu as anéanti cette armée, il me semble juste que tu l'enterres. » Sidoine, ayant regardé autour de lui, aperçut 5 ou 6 buttes de sable qui se trouvaient là. Il les poussa sur le champ de bataille à l'aide de vigoureux coups de pied et les aplanit de la main, de manière à en faire un seul coteau qui servit de tombe à près de 1 100 000 hommes. En pareil cas, il est rare qu'un conquérant prenne lui-même ce soin pour les vaincus. Ce fait prouve combien mon héros, tout héros qu'il était, se montrait bon enfant à l'occasion. Durant l'affaire, les Bleus, stupéfaits de ce renfort qui leur tombait du haut d'une des grandes pyramides, avaient eu le temps de reconnaître que ce n'était pas là un éboulement de pavés, mais un homme en chair et en os. Ils songèrent d'abord à l'aider un peu. Puis, voyant la façon aisée dont il travaillait, comprenant qu'il serait plutôt un embarras, ils se retirèrent discrètement à quelque distance, par crainte des éclaboussures. Ils se haussaient sur la pointe des pieds, se bousculaient pour mieux voir, accueillaient chaque coup d'un tonnerre d'applaudissements. Quand les vers furent morts et enterrés, ils poussèrent de grands cris. Ils se félicitèrent de la victoire, se mêlant tumultueusement, parlant tous à la fois. Cependant, Sidoine, ayant soif, descendit au bord du Nil pour boire un coup d'eau fraîche. Il le tarit d'une gorgée. Heureusement pour l'Égypte, il trouva ce breuvage si chaud et si fade qu'il se hâta de rejeter le fleuve dans son lit sans en avaler une goutte. Vois à quoi tient la fertilité d'un pays. De fort méchante humeur, il revint dans la plaine et regarda les Bleus en se frottant les mains. « Frère, dit-il d'un ton insinuant, si je frappais un peu sur ceci maintenant, ces hommes font beaucoup de bruit. Que penses-tu de quelques coups de poing pour les forcer à un silence respectueux ?»«
Garde-t'en bien, répondit Médéric. Je les observe depuis un instant, et je leur crois les meilleures intentions du monde. Pour sûr, ils s'occupent de toi. Tâche, mon mignon, de prendre une pose majestueuse, car, si je ne me trompe, les grandes destinées vont s'accomplir. Regarde, voici venir une députation. »
Au tapage d'un million d'hommes émettant chacun leur avis sans écouter celui du voisin, avait succédé le plus profond silence. les bleus venaient sans doute de s'entendre. Ce qui ne laisse pas que d'être singulier, car dans les assemblées de notre beau pays, où les membres ne sont guère qu'au nombre de quelques centaines, ils n'ont pu jusqu'ici s'accorder sur la moindre vétille. L'armée défilait en deux colonnes. Bientôt, elle forma un cercle immense. Au milieu de ce cercle se trouvait Sidoine, fort embarrassé de sa personne. Il baissait les yeux, honteux de voir tant de monde le regarder. Quant à Médéric, il comprit que sa présence serait un sujet d'étonnement, inutile et même dangereux en ce moment décisif. Il se retira par prudence dans l'oreille qui lui servait de demeure depuis le matin. La députation s'arrêta à 20 pas de Sidoine. Elle n'était pas composée de guerriers, mais de vieillards, aux crânes nus et sévères, aux barbes magistrales, tombant en flots argentés sur les tuniques bleues. Les mains de ces vieillards avaient pris les rides sèches des parchemins qu'elle feuilletait sans cesse. Leurs yeux, habitués aux seules clartés des lampes fumeuses, soutenaient l'éclat du soleil avec les clignements de paupières d'un hibou égaré en plein jour. Leurs échines se courbaient comme devant un pupitre éternel. Tandis que sur leurs robes, des taches d'huile et des traînées d'encre dessinaient les broderies les plus bizarres, signes mystérieux qui n'étaient pas pour peu de choses dans leur haute renommée de science et de sagesse. Le plus vieux, le plus sec, le plus aveugle, le plus bariolé de la docte compagnie, avança de 3 pas en faisant un profond salut. Après quoi, s'étant dressé, il élargit les bras pour joindre aux paroles les gestes convenables. « Seigneur géant, dit-il d'une voix solennelle, moi, prince des orateurs, membre et doyen de toutes les académies, grand dignitaire de tous les ordres, je te parle au nom de la nation. Notre roi, un pauvre sire, est mort. Il y a 2 heures, d'un dérangement du ventre, pour avoir vu les vers à l'autre bout de la plaine. Nous voilà donc 100 maîtres qui nous chargent d'impôts, qui nous fassent tuer au nom du bien public. C'est là, tu le sais, un état de liberté déplaisant communément au peuple. Il nous faut un roi au plus vite. Et dans notre hâte de nous prosterner devant des pieds royaux, nous venons de songer à toi, qui te bats si vaillamment. Nous pensons, en t'offrant la couronne, reconnaître ton dévouement à notre cause. Je le sens. Une telle circonstance demanderait un discours en une langue savante, sanscrite, hébraïque, grecque, ou tout au moins latine. Mais que la nécessité où je me trouve d'improviser, que la certitude de pouvoir réparer plus tard ce manque de convenance, me serve d'excuse auprès de toi. » Le vieillard fit une pause. « Je savais bien, songeait Médéric, que mon mignon avait des poings de roi. »